Alors, ce matin, je vais vous parler d'éthologie, et en particulier d'éthologie cognitive. C'est la branche de l'éthologie qui s'occupe de ce qui se passe dans la tête des animaux. Alors, c'est un programme de recherche, bon, en soi, qui est très intéressant et actif ces dernières années. La plupart des études dont je vais vous parler ont été faites après l'an 2000. Il y a des évolutions très rapides, c'est pour ça que dans les livres de vulgarisation, il y a beaucoup de choses qui sont périmées. Et bon, et ça m'intéresse aussi d'aborder cette question, puisque on considère que c'est la conscience de soi est moralement pertinente dans la manière dont on doit traiter quelqu'un. Parce que dans toutes les théories morales, enfin la plupart, les principales qui sont utilisées en éthique animale. L'idée, c'est que si un animal n'a pas conscience de lui-même, il ne peut pas souhaiter rester en vie, s'il n'a pas conscience qu'il existe. Donc le fait de le tuer en soi n'est pas mal. Alors, ça peut avoir des effets des maux indirects si on le fait souffrir ou si ses proches sont attristés par sa perte. Mais en tant que tel, c'est pas considéré comme mal. Alors ça, c'est que ce soit dans la théorie utilitariste ou la théorie des droits, ou même la théorie des droits juridiques de Francione. Sauf que lui, les théoriciens des droits, en fait, ils utilisent beaucoup l'argument tout être sentient est forcément conscient de lui-même, parce que une sentience toute seule, ça servirait pas à grand chose. Il faut savoir que, par exemple, quand on va boire de l'eau, c'est soi-même qui aura plus soif. Alors, place importante dans le débat moral, là, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est dans le débat avec les gens, les spécistes, c'est un argument qui revient pour ceux qui ont quelques notions de philosophie, qui répondent, ah oui, bon, la souffrance, d'accord, les animaux souffrent, c'est pas bien de leur faire du mal, mais... on peut quand même les tuer, c'est pas un problème, parce qu'ils n'ont pas conscience. Donc, alors, je me fonde presque exclusivement sur des expériences de laboratoire, parce que déjà, la plupart des études sont de ce type. Elles ont quelques défauts, bien sûr, rien n'est parfait. Bon, d'abord, le problème éthique. Puisque c'est de l'expérimentation animale, même si on ne dissèque pas les animaux, tout dépend des expériences, mais ce n'est pas forcément très violent, mais c'est quand même une expérimentation où on fait faire à l'animal des choses qu'il n'a peut-être pas envie de faire. Il préférerait rester avec ses amis dans son coin. Alors l'artificialité de l'environnement et des tâches demandées, c'est que évidemment dans ces situations, l'animal n'est pas du tout en situation naturelle, donc il peut pas, son comportement est forcément restreint. Et les tâches demandées ont un côté artificiel. Vinciane Desprez utilise le terme académico-centrique, je crois, pour dire qu'en fait... En voulant éviter l'anthropomorphisme des observations de terrain, on crée un environnement aseptisé, mais qui ressemble un peu à l'environnement scolaire, puisque les psychologues qui font ce genre d'études sont d'anciens bons élèves, donc ils ont dans la tête certaines idées. Alors l'absence de convivialité, ça, c'est un... C'est une évidence que de dire qu'on apprend mieux et qu'en situation conviviale. Vous savez qu'à la fin des années 60, les époux Gardner et à la suite d'eux, d'autres éthologues ont appris à parler à des singes, la langue des signes, et ils faisaient ça dans un environnement convivial, donc comme si le singe était un membre de la famille et... Il apprenait à utiliser certains mots en situation parce qu'il avait envie de s'exprimer avec les humains ou d'autres singes. Et au début des années 80, il y a un psychologue de laboratoire qui s'appelle Herbert Terreys, qui lui a voulu apprendre aux singes à parler dans des conditions d'expérimentation de laboratoire très austères. Et il leur apprenait la langue des signes ou utiliser un ordinateur, puisqu'il y a eu aussi cette méthode, de manière très scolaire, un peu comme on apprend le latin dans les écoles militaires. On se marrait pas. Et ça a été un échec complet. Les singes n'étaient pas très motivés. Alors les avantages quand même, c'est la solidité scientifique des résultats, puisqu'on est dans des environnements totalement contrôlés, on arrive à jouer sur les variables, et bon, il y a moins de risques de se dire « Ah ben il y a peut-être une raison cachée » ou c'est le fait que ce soit reproductible, ça permet de sortir de l'anecdote, parce que le problème de l'éthologie de terrain, c'est que les sceptiques ont tendance à dire « Oui, bon, mais ça c'est une anecdote isolée, ça prouve rien, ça se trouve l'animal a fait ça par hasard. » Et puis on peut tester toutes les explications alternatives. Bon, un exemple tout simple, par exemple, si on veut savoir comment se déplace une chauve-souris, alors on va se demander, tiens, est-ce qu'elle utilise ses yeux? Alors on va lui mettre un bandeau sur les yeux ou éteindre la lumière, et là on va s'apercevoir qu'elle se déplace quand même. Donc on va se dire, tiens, c'est pas les yeux, on va tester une autre hypothèse, lui mettre de la cire dans les oreilles pour voir si c'est l'ouïe. Et puis, faible risque de biais anthropomorphique chez les expérimentateurs, puisque beaucoup d'entre eux ont fait des misères aux animaux dans leur carrière, des dissections, des expérimentations douloureuses, donc c'est difficile de les accuser d'être biaisés et d'avoir un anthropomorphisme. Ils savent déjà comment ouvrir le tube. On les met dans une cage avec leurs congénères dans un tube et des chocolats dans l'autre. Il y a 5 chocolats, c'est des petits pétales comme des chocs à pic, mais en plus petit. Alors là, ils ont la possibilité, comme ils connaissent le mécanisme, d'ouvrir le tube contenant des chocolats, de tout manger et ensuite d'aller chercher leurs congénères. Et on s'aperçoit qu'en fait, non, en moyenne, ils en gardent 1,5 pour leurs congénères. Oui, ils en mangent quand même d'abord. Enfin, c'est variable, il y en a qui font. Il y en a certains qui font ça. Là, c'est la moyenne que j'ai dit. Il y en a aussi, c'est des gros morphales, ils mangent tout. Voilà. Non, la plupart ouvrent d'abord le tube, ils en mangent un peu, et ensuite ils libèrent leurs congénères en ayant laissé. Et alors bien sûr, pour vérifier que c'est pas parce qu'ils n'ont pas faim qu'ils n'ont pas tout mangé, on a fait aussi une variante avec tube vide et tube avec chocolat. Et là, à ce moment-là, ils mangent tout. Donc c'était bien pour en garder pour leurs congénères qu'ils en avaient laissé. Alors, la théorie de l'esprit, alors là là j'utilise le terme dans son sens restreint, c'est en excluant l'empathie, c'est juste attribuer à autrui des croyances, des intentions et des buts. Alors, chez les animaux, il y a de très fréquents cas de tromperie, mais après, juste ces cas simples, ça, c'est pas déterminant, enfin, c'est pas une preuve très, très convaincante, puisqu'ils peuvent avoir juste constaté qu'en faisant quelque chose, l'autre réagissait d'une telle manière, sans comprendre le mécanisme psychologique qu'il y a derrière. Par exemple, un animal peut avoir constaté que dès que quelqu'un donne l'alarme, tout le monde s'enfuit. Et donc, s'il a envie de manger, de garder pour lui tout seul de la nourriture, il va faire un cri d'alarme, ça les fait partir et prendre les fruits ou autre chose. Mais après, il y a des cas quand même de tromperie un peu plus élaborés. Alors, c'est un cas qui est décrit dans le livre de Vinciane d'Esprez. C'est une situation un peu artificielle, puisqu'on crée une compétition en apportant de la nourriture à des singes, mais en quantité vraiment limite. Du coup, ils ont tendance un peu à se disputer pour prendre les fruits. Alors, il y a un jeune qui s'approche, et puis il y a un mâle plus âgé, dominant, qui commence à le suivre. Alors, hop, il se met à faire l'innocent, à regarder ailleurs, etc. Du coup, le mâle s'en va. Et du coup, le jeune repart vers la corbeille de fruits. Et là, tout d'un coup, le vieux sort d'un fourré. En fait, il n'était pas parti, il s'était caché, parce qu'il avait trouvé le comportement du petit jeune un peu louche. Donc là, c'est un peu difficile de ne pas faire intervenir la théorie de l'esprit pour expliquer ce comportement. Alors, il y a des cas de tromperie chez les cochons, chez les poules. Alors, les cochons, c'est pareil. Il y a une nourriture en quantité un peu limitée. Et le cochon sait où elle se trouve. On le met avec un dominant qui, lui, ne sait pas. Alors, il va... La première fois, il s'aperçoit que le dominant vient lui piquer dès qu'il va chercher. Alors, la nourriture est cachée sous de la paille. Du coup, dans les fois suivantes, dès qu'il est avec le dominant, il fait l'innocent, il attend qu'il parte et il pense qu'il y a à manger. Mais alors, ce genre de cas, ça ne convainc pas les éthologues, parce que, enfin certains. Par exemple, je vais vous citer un extrait du livre sous la direction de Vauclair, qui s'appelle L'éthologie cognitive. Alors, on lit sous la plume d'un des auteurs. Aussi bien pour les poules que pour les porcs, on ne peut néanmoins conclure à une connaissance du savoir d'un congénère, car cela supposerait des facultés d'attribution d'intention. Voilà, et c'est tout. Donc l'idée même que des poules et des cochons puissent avoir des intentions, ça suffit. C'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de donner d'arguments. Alors les primates, il y a eu beaucoup d'études sur la théorie de l'esprit chez les primates. Alors il y en a beaucoup qui ne marchaient pas très bien. Donc on s'est dit que peut-être qu'ils n'avaient pas une théorie de l'esprit. Mais en fait, c'était ce qu'on appelle des tests des fausses croyances. Il faut que le singe comprenne que quelqu'un a des croyances erronées. Or, en fait, les chimpanzés ont beaucoup de mal à faire ça. Par contre, ils sont capables d'attribuer des intentions à autrui, de savoir qui sait quelque chose, qui ne sait pas quelque chose. Par contre... deviner qui croit faussement quelque chose, ça leur est plus difficile. Donc ils ont une théorie de l'esprit, mais partielle par rapport à la nôtre, qui inclut les fausses croyances. Oui. Alors je vais pas détailler toutes les études, parce que ce serait long. Donc j'ai décidé d'insister sur une série d'expériences sur les gébusonniers, parce qu'elles sont, je les trouve complètes, intéressantes. Alors, c'est des oiseaux, les gébusonniers, qui dans la nature ont l'habitude de cacher de la nourriture. Donc on va exploiter cette tendance.
C'est des sortes de corbeaux, non ?
Oui, c'est des corvidés. Et ils adorent les vers, c'est leur aliment préféré. Et il y a beaucoup de vols entre eux dans la nature. On observe qu'il y en a qui vont piquer dans les réserves des autres. Du coup, ils ont intérêt à s'ils ont une théorie de l'esprit, ils vont s'efforcer de dissimuler leur cachette aux yeux des autres.
Quel sens ils adorent les vers ?
Oui, ça a un très bon goût. Oui, c'est les asticots, pas la poésie.
Ça
Alors, une première expérience qui est sortie en 2005 dans Animal Behavior. Alors, c'est le... Alors là, c'est... Bon, le... ça se passe dans une... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du dispositif. Alors, on va utiliser comme cachette ce que vous voyez là, la photo. En fait, ça, c'est un bac à glaçons qui est rempli avec des... Alors, dans ces expériences, c'est des croquettes au maïs. Et donc, les oiseaux cachent leur verre. Si on leur donne dans un bol, ils vont les dissimuler dessous. Et alors, les Legos, ça sert à différencier les dispositifs parce que dans certaines expériences, il y en a plusieurs qui peuvent être déplacés. Donc, ça les aide à les individualiser. Voilà, donc là c'est une expérience très simple, c'est dans un enclos avec des parois. Alors il y a deux possibilités. Dans les deux cas, il y a deux oiseaux, un qui est observateur et un autre qui est observé, qui est le dissimulateur. Donc dans un cas de figure, une partie de la cage du dissimulateur est hors de la vue de l'observateur. L'autre est visible, c'est un mur transparent. Et dans d'autres cas, le dissimulateur est complètement en sol, en privé, puisque tout est caché. Et on s'aperçoit que les jets cachent la nourriture hors de la vue de l'observateur dans le premier cas de figure. Ils mettent à peu près les trois quarts de leur verre ici, et quelques-uns ici. Alors c'est peut-être pour les aiguiller sur une fausse piste, hein, qu'ils en mettent quand même quelques-uns dans l'autre. On va voir ça plus tard. Voilà. Alors bon, c'était une première expérience, mais il y a des explications alternatives. On peut se dire c'est juste le fait de voir derrière la vitre l'autre oiseau, le rival qui est en train d'observer, c'est peut-être ça qui les inhibe à cacher leur verre, et donc ils vont se mettre hors de sa vue, et à ce moment-là ils y penseront plus et ils cacheront les verres à cet endroit. Donc il nous faut un dispositif où les jets voient l'observateur, mais sans être vus eux-mêmes. Donc pour ce faire, là dans la cage, il y a une zone qui est éclairée par une ampoule, et l'autre partie, ici, qui est dans la pénombre. Et pareil, on fait les deux variantes avec le cache transparent ou le cache opaque. Et quand, alors, on s'aperçoit que quand l'oiseau dissimulateur est observé, il met trois quarts de ses verres dans la zone sombre. Par contre, quand il est seul, il en met un peu partout. Là, c'est une variante où on va varier sur la distance. Alors, cette fois-ci, les deux bacs sont espacés d'une soixantaine de centimètres. Donc, celui qui est éloigné est l'oiseau observateur a une moins bonne acuité visuelle sur celui qui est éloigné. Et le dissimulateur en tient compte, puisque quand il est observé, il cache préférentiellement ses verres dans le bac qui est éloigné. Par contre, quand il est en privé, il en met un peu partout. Alors ça, c'est une variante... C'est toujours le test avec la distance, mais là, ce qu'on fait varier, c'est le statut social de l'observateur. On fait une variante soit avec un dominant, avec un subordonné, avec le partenaire, parce que c'est des oiseaux qui vivent en couple, et toujours seul en privé. Et on s'aperçoit que quand ils sont observés par un rival, que ce soit un dominant ou un subordonné, ils ont, comme précédemment, une préférence pour le bac qui est éloigné. Par contre, s'ils sont seuls ou s'ils sont vus par leur partenaire, il n'y a pas de, Il n'y a pas de différence. Alors quand c'est un subordonné, c'est moins marqué. Ils ont peut-être un peu moins peur de lui. Et en fait, les jets tolèrent très bien que leur partenaire leur pique des vers. En fait, ils font un peu compte commun pour ce qui est des...